Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir encore Monsieur Rennes du Centre de l'Aube qui vient annoncer une série de week-ends à thème sur l'évolution, sur la phylogénèse, l'histoire de la vie sur Terre, avec deux week-ends, voire plus, qui seront connectés avec des déplacements à Lyon ou ailleurs pour assister à des conférences avec des sommités scientifiques sur le sujet. Monsieur Rennes, bonjour.
Bonjour.
Alors oui, c'est passionnant tout ça, mais en quoi vous, de ce que je connais comme compétence, à savoir gynécologue et puis adepte de développement personnel et puis d'autres techniques de bien-être, dirais-je, en quoi cela vous intéresse l'histoire de l'évolution ?
Parce que l'histoire de l'évolution, c'est d'abord notre histoire à nous. Quand Hubert Reeves dit « nous sommes poussière d'étoiles », ce n'est pas une phrase, c'est une réalité. Et comprendre d'où nous venons, comment nous avons été construits, qu'est-ce qui fait que même notre corps est ainsi fait aujourd'hui et que notre esprit est ainsi fait aujourd'hui, tout ça, c'est contenu dans la phylogénèse. Et donc, c'est une certaine connaissance de soi, étudier la phylogénèse. Donc ça, c'est la raison pour moi qui est principale. Ensuite, pour moi, la phylogénèse, ce n'est pas une connaissance qu'on aborde. On peut le faire, mais c'est pas, mon but, ce n'est pas de l'aborder en additionnant des connaissances et des mots obscurs, des choses comme ça. C'est plutôt se mettre devant la contemplation de l'ordre des choses pour essayer, à partir de ça, de comprendre quelles sont les grandes lois qui régissent l'évolution et la nôtre en particulier.
Et vous pensez justement que le fait de connaître non seulement notre origine, mais l'origine de la vie, du monde, peut nous permettre d'acquérir un supplément de sérénité.
Je pense, oui. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, moi, tout ce que je le fais à partir de questions personnelles, de rencontres, quelquefois avec mon métier, quelquefois pas. Et depuis très longtemps, j'ai toujours eu une espèce de curiosité pour l'histoire de la vie sur Terre, donc la phylogénèse. Et le jour où il y a maintenant, je ne sais pas, 10-15 ans, un groupe m'a proposé de travailler là-dessus, j'ai tout de suite adhéré. Et donc, je me suis passionné. Donc, ça fait très longtemps que j'étudie la phylogénèse maintenant, ce qui ne veut pas dire que je suis un expert, hein. Mais bon, j'aperçois un petit peu 2-3 choses qui se sont passées d'importantes dans la phylogénèse. Et moi, ça m'a beaucoup enrichi, ça m'a beaucoup servi. Et je me suis toujours dit en particulier que si on pouvait enseigner ça aux jeunes, aux enfants, ils auraient au moins le principal de l'histoire de la vie. C'est-à-dire que leur raconter la 5e République, 1515, Napoléon, machin, c'est sûrement intéressant. Mais si vous voulez, pour moi, c'est comme si on s'intéressait dans l'humain, au nez, à la bouche, aux yeux, mais qu'on n'avait pas regardé l'ensemble. L'ensemble, c'est l'histoire de la vie. Et puis dans cet ensemble, il y a des sous-ensembles, des fonctions pour le corps, etc. Et que je pense qu'il faut d'abord une vision d'ensemble avant de se lancer dans le particulier. Et ça, c'est pour moi extrêmement central comme notion.
Alors j'entends bien que vous voulez faire acte de pédagogie en matière de phylogénèse, mais de nos jours, il y a des écoles qui sont assez antagonistes. Quelle école allez-vous représenter ?
Alors en fait, nous, on défend pas du tout une école. Et ce qui est très intéressant, quand on regarde un petit peu les guerres entre... Enfin, les guerres, pas les guerres, mais les oppositions, et il faut qu'il y en ait, entre scientifiques, on s'aperçoit que pour nous, ça change pas grand-chose. Parce que par exemple, si on se dit, est-ce que la Terre, l'origine de la vie a été ensemencée par une autre comète qui s'appelle, dans l'histoire de la phylogénèse, la panspermie, ou est-ce que ça a été fait, comme le décrivait Haldane, par la soupe primitive dans les océans? Est-ce que ça a été fait au fond des océans? Parce qu'en fait, c'est ça la discussion. Pour nous, ça ne change rien. Parce que de toute façon, ce qui s'est passé, c'est passé. Et ça, on connaît la chronologie de ce qui s'est passé. Mais que ce soit passé au fond des océans, que ce soit passé sur les bords des océans primitifs, ou que ce soit passé parce qu'il y a eu des comètes qui sont tombées sur Terre, pour nous, ça ne change rien. Par contre, ça nous intéresse de voir comment évolue la discussion entre scientifiques, parce qu'une fois qu'on aura une certitude, on pourra s'appuyer dessus. Mais nous, ça ne change rien dans notre contemplation.
Vous, ce qui vous intéresse, c'est vraiment l'émergence de la vie sur Terre et non pas à partir du cosmos, parce que j'ai l'impression que vous vous intéressez au fait que la vie émerge.
Si, le cosmos nous intéresse beaucoup. Mais après, ce n'est plus la phylogénèse, c'est l'astrophysique. Et l'astrophysique, c'est ce qui a préparé la Terre et c'est ce qui a été les prémices. Et c'est aussi extrêmement intéressant, sauf que c'est pas la même échelle. Et donc, il y a une continuité, mais ce n'est pas la même échelle. Et donc, il faut commencer à observer selon un point de vue et ensuite on peut passer à l'autre point de vue.
Donc vous intéressez dans ces conférences plutôt à l'émergence de la vie sur Terre?
Voilà, pour l'instant oui. Voilà. Les années qui vont suivre, on va continuer ces week-ends et vraisemblablement on va ajouter de l'astrophysique, on va ajouter aussi de l'embryologie parce que c'est aussi extrêmement intéressant de regarder ce qui se passe en 9 mois dans l'embryologie. C'est une répétition d'ailleurs de la phylogénèse. On retrouve en tout petit l'histoire de la vie telle qu'elle s'est faite en 4,5 milliards d'années. On la retrouve sur 9 mois, donc c'est extrêmement intéressant comme analogie de regarder ça. Donc tout ça, ça va se faire, mais dans les temps qui viennent.
Alors vous m'avez dit, ce qui est relativement surprenant comme postulat, que vous dépassiez tous les clivages des écoles différentes. J'ai du mal à comprendre. Est-ce que vous voudriez réexpliquer un petit votre position?
Oui, non, c'est pas que je les dépasse, c'est qu'ils ne gênent pas la contemplation. Par exemple, je sais pas, je vais prendre une autre hypothèse, c'est sur ce qu'on appelle la Terre blanche, la Terre qui a été à un moment couverte de glace, alors de glace, de neige, on ne sait pas très bien, là il y a des grandes discussions, est-ce qu'elle a été vraiment couverte de glace, est-ce que c'était de la neige, est-ce qu'elle a été froide totalement sur tous les pôles et même au niveau de l'équateur ou pas, nous ça ne change rien si vous voulez, parce que nous ce qu'on essaie de comprendre c'est le principe. Qu'est-ce que cet événement extrêmement important pour la vie, puisque ça a failli détruire la vie, a produit? Comment ça a obligé la vie à évoluer et qu'est-ce que ça a produit? Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Mais que ce soit par le fait que la Terre était vraiment une boule de glace ou de la neige, nous, ça ne change pas grand-chose dans la contemplation qu'on a. Alors, il faut bien entendre qu'on est en train de contempler, nous, les grands phénomènes. Et quand on va rentrer, en effet, quand on va rentrer dans le détail, on aura besoin de savoir exactement ce qui s'est passé. Mais pour l'instant, on n'en a pas vraiment besoin. Et de toute façon, comme ce n'est pas tranché, ça ne sert à rien de prendre une position plutôt que l'autre, puisque ce n'est pas très clair entre scientifiques.
Je vous interpelle sur deux termes que vous avez utilisés. Nous. Alors, qui sont ces nous, première question. Et deuxièmement, contemplation. Expliquez-moi encore le pourquoi de cette contemplation.
Alors nous, c'est les gens qui travaillent avec moi parce que je ne peux pas tout porter seul. Donc il y a en particulier Laurence qui est à côté de moi là maintenant et qui porte beaucoup ses stages avec moi. Et puis il y a d'autres gens avec qui on a fait de la recherche il y a maintenant 10-15 ans. On avait commencé la recherche, ils ne sont plus à mes côtés. Mais je dis nous parce qu'on a vraiment tellement travaillé ensemble que tout le travail que je présente est issu de ces personnes avec qui nous avons travaillé. Alors après, concernant la contemplation, je vais essayer de vous l'expliquer par une analogie. C'est assez simple, je pense. C'est-à-dire que quand on regarde une mère, une femme qui a un enfant, vous pouvez me dire son prénom, vous pouvez me dire ce qu'elle fait comme boulot, vous pouvez me dire la couleur de ses yeux, de ses cheveux, sa taille, vous pouvez me faire une certaine description. Ça, c'est votre description de cette maman. Si vous demandez à l'enfant de 3 ans la description, il ne la fait pas du tout comme ça. Lui, il ne regarde absolument pas ce que vous venez de me décrire. Lui, il regarde l'esprit de maman. L'esprit de maman, c'est comment va maman? À quoi pense maman? Quelle est la météo intérieure de maman? Quels sont ses soucis? Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce qu'elle m'aime pas? Est-ce qu'elle est en difficulté? Donc, ce n'est pas du tout la même perception. C'est-à-dire que devant un être humain, il y a deux choses. Il y a l'être, le corps, et puis il y a l'esprit de la chose. Mais c'est vrai pour les arbres. Il y a l'arbre et l'esprit des arbres, comme disaient les Indiens. Eh bien, la contemplation essaie de voir plutôt l'esprit des choses, ce qui préside, ce qui préexiste à la chose.
C'est un peu ce que pourrait reprocher la médecine holistique à une médecine qui coupe les facteurs causaux en rondelles.
Tout à fait, ça peut être une opposition. Pour moi, ça ne l'est pas du tout, puisque, bon, je l'ai dû le dire peut-être déjà dans cette antenne, moi je suis d'origine très scientifique, et en même temps, par mon père qui était chercheur à l'Institut Pasteur, et puis en même temps très intéressé par la vie intérieure, par ma mère qui était prof de philo, passionnée de psychanalyse. Donc moi j'ai toujours eu les deux approches dans ma vie, donc les deux me semblent totalement complémentaires. Donc je ne rentre pas... Je n'ai pas du tout du goût pour les oppositions, pour les guerres de clans, tout ça m'intéresse très très peu.
J'entends bien, mais ceci dit, alors que vous prétendez avoir une démarche scientifique et de parler de contemplation, ça méritait ce petit éclaircissement que vous avez...
Je vais le continuer si vous me permettez.
Oui.
C'est qu'en fait, il y a une ambiguïté. C'est que les scientifiques s'imaginent, les scientifiques qui s'occupent du corps, qui s'occupent de la matière, s'imaginent que la démarche rigoureuse scientifique de la matière est la même pour l'esprit. Or, ce n'est pas la même. Elle est aussi rigoureuse, mais elle ne fonctionne pas de la même façon. Et c'est là la grande ambiguïté. C'est-à-dire que ces deux mondes ne se comprennent pas parce que l'un et l'autre pensent que l'autre devrait fonctionner comme il fonctionne. Or, ce sont deux approches différentes, avec des outils différents et avec des rigueurs différentes. C'est ça qu'il faut comprendre.
Si je peux me permettre d'amener mon petit grain de sel, la médecine quantique a bien dit que l'observé était changé par l'observant. Donc, ça veut dire que...
Totalement, totalement. Alors ça, c'est déjà une notion extrêmement importante. C'est que celui qui observe modifie ce qu'il observe, en effet. C'est ce que vous venez de dire. Et alors ça, c'est quelque chose de très important à comprendre.
Et qui validerait, en fait, une introspection, puisque nous pourrions effectivement changer notre monde en nous changeant nous-mêmes. Enfin, c'est très gandhien, je n'invente rien.
Ah oui, non, mais là, c'est une notion de Gandhi, bien sûr, mais qu'il faut développer parce que c'est que logique, ça. Par exemple, ça, c'est archi logique. C'est-à-dire, on sait très bien qu'avant une action, il y a un processus intérieur qui a eu lieu et qui préexiste à l'action. C'est-à-dire qu'avant que vous fassiez toute chose, vous percevez quelque chose, vous avez un enchaînement de pensées, ces pensées ont produit une décision et cette décision va faire une action. Mais tous les phénomènes psychiques qui ont eu lieu avant sont nécessaires. Et donc quand on regarde l'action pour elle-même, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'avant ça, il y a eu une décision, avant ça, il y a eu des pensées et avant ça, il y a eu une perception. Et donc la vraie question, la plus fondamentale, c'est comment perçoit l'humain ? Et si on commence à comprendre, si on s'intéresse à comment l'humain perçoit, comment nous percevons, parce qu'on ne perçoit pas le monde. Justement, si on parle des Indiens, en Inde, ils disent c'est le Maya, c'est l'illusion. Bon, nous, on ne le dit pas comme ça. Mais il faut comprendre que la perception humaine est extrêmement particulière, elle est extrêmement intéressante à étudier scientifiquement même, mais que du coup, ça va nous faire comprendre un certain nombre de choses qui dysfonctionnent.
Si j'en reviens à notre sujet sur vos week-ends à thème sur l'évolution, le fait effectivement d'approfondir notre connaissance de nos origines peut changer notre vie au quotidien.
Oui, je crois qu'il y a plein de choses que ça change. C'est-à-dire, si on regarde quelques lois fondamentales que nous enseigne la phylogénèse, il y en a une, par exemple. C'est que toute forme de vie, il lui est proposé d'être le pas de plus dans l'évolution. C'est-à-dire que chaque forme de vie a essayé de résoudre un problème et que la résolution de ce problème a amené un plus pour toutes les formes de vie. Et que donc, nous faisons partie de cette histoire-là. Et je prends souvent l'exemple du corps humain, parce que c'est là où on se repère le mieux. Mais vous avez, comme moi et comme tous les humains, un cœur qui bat avec du sang chaud. Ce n'est absolument pas vous qui l'avez inventé. Ça a été inventé il y a 65 millions d'années par une petite espèce qu'il a fabriqué, qu'il a construit et qui, en partir de ça, l'a mis en mémoire dans nos chromosomes. Et nous allons hériter de ça gratuitement. Donc nous héritons de tous les progrès que la vie a fait depuis 4,5 milliards d'années. Pour faire quoi ? Pour faire la suite. Et donc déjà, ça donne une indication extrêmement importante, c'est que nous venons pour faire la suite. Et que donc, on n'est pas venu juste pour aller au club méditerranéen, se dorer la pilule, faire des petits voyages en car, on est là pour faire la suite. Et donc, quelle suite ? Ça va dépendre de chacun. Parce que chacun a, dans cette grande histoire, une place.
J'ai l'impression que vous faites un plaidoyer pour l'inestimable valeur de la vie humaine.
Complètement. Complètement.
On n'est pas là pour aller au club méditerranéen.
On peut, entre deux, on a besoin de se reposer de temps en temps. Mais ce n'est pas le but de la vie. Quoi. Le but de la vie, ce n'est pas vivre les pieds en éventail en attendant que ça se passe. C'est que nous participons à une aventure magnifique et c'est ça qui est passionnant. Et chacun, à notre mesure, nous pouvons y participer sans qu'il soit question d'argent, sans qu'il soit question de niveau social, économique, sans qu'il soit question de rien. Au-delà de tout ça, tout humain, quel qu'il soit, que ce soit sa race, son niveau, tout ce que vous voulez, peut amener sa pierre à l'édifice. Et c'est ça, par exemple, qui est absolument central comme enseignement dans la phylogénèse. Parce que c'est comme ça depuis 4,5 milliards d'années, il faudrait m'expliquer pourquoi ça s'arrêterait aujourd'hui.
Oui, c'est un peu ce qu'on appelle les effets de seuil aussi, non ? C'est simultanément, à partir du moment où un progrès ou un pas, comme vous dites, est intégré, il se répand de façon inexpliquée un peu partout ?
Voilà, ça c'est l'étape d'après. C'est-à-dire que si, dans l'ensemble de la vie sur Terre, un certain nombre de formes de vie élaborent un progrès, élaborent un nouveau, et ben, à partir de l'effet seuil, c'est qu'en effet, ce nouveau va être possible pour tous à partir du moment où un certain pourcentage l'aura fait. Et ça va être inscrit dans le patrimoine génétique et donc rendu disponible pour la forme de vie suivante, gratuitement.
Alors, y aurait-il sous-jacemment à ce processus vital depuis un certain nombre de milliards d'années, un dessein caché ou une logique que nous aurions peut-être du mal à percevoir, mais en tout cas qui semblerait guider ou est-ce que c'est le pur chaos darwinien ?
Alors là, je crois que justement l'intérêt, c'est que chacun se fasse son idée. C'est-à-dire que étudier la phylogénèse, contempler, essayer de rentrer dans ces lois-là, c'est que chacun puisse se faire sa propre opinion et qu'il n'y a pas à vendre une solution plutôt que l'autre. Mais on est quand même obligé de se dire, c'est quand même drôlement bien fichu, quoi. C'est drôlement bien fichu. Et donc, on peut se dire, il y a peut-être une intelligence derrière. Mais après, moi, ça m'est égal, ça. Chacun fait la route qu'il veut. Et après, si on veut parler de Dieu, on peut dire que peut-être étudier l'histoire de la vie sur Terre, comme ça rentrer dans les coulisses, parce que c'est ça, c'est essayer de rentrer dans les coulisses de ce qui se passe, comme l'enfant rentre dans les coulisses de sa mère en apercevant comment elle pense, comment elle souffre, comment elle vit, comment elle aime. En rentrant dans les coulisses, à ce moment-là, on peut dire qu'on peut-être on fréquente un peu la laine de Dieu, si on peut se permettre ce mot. Voilà, donc l'idée, c'est pas du tout de vendre quelque chose de tout compris, tout fait. L'idée, c'est que chacun se mette devant cette magnifique histoire et essaye d'en apprécier la beauté, essaye d'en apprécier l'intelligence, essaye d'en apprécier les lois, et après il fait ce qu'il veut avec tout ça, bien évidemment.
Mais ceci dit, vous savez bien que dans l'histoire de cette vie, de son évolution, il y a eu des impasses. Hein. On découvre tous les ans des espèces, voire des familles, des arthropodes, toute une série d'arthropodes qui a fini par s'arrêter de vivre.
Complètement.
Et donc, c'est pas toujours facile d'admettre que ça pourrait nous arriver, hein, si on continue à faire les imbéciles sur cette terre.
Totalement.
Que la vie continue sans nous, quoi. Et c'est là qu'il y a des gens qui disent que la vie est fondamentalement injuste et que, en fait, si on regarde des périodes de temps plus vastes ou des cycles plus longs qui nous dépassent, eh bien, il y aurait quand même malgré tout cette logique où, où...
Voilà. Alors ça, c'est aussi une question qui est intéressante et là aussi, il faut... se mettre devant et puis essayer de comprendre comment ça marche. Mais c'est vrai que l'évolution de la vie, elle n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a une espèce qui a trouvé le bon truc et qui va, elle, progresser toute seule. Dans l'observation qu'on a fait, c'est jamais comme ça que ça s'est passé. Même dans l'histoire humaine, il y a eu des souches qui ont fait des choses et puis elles ont disparu. Mais c'est comme si elles s'étaient arrêtées parce qu'en effet, il y a eu un problème. Mais c'est comme si leur enseignement était reparti ailleurs. C'était pas les mêmes, c'était pas leurs enfants, c'était ailleurs. Et que cet ailleurs avait refait faire un progrès. Et puis ensuite, c'était reparti de l'autre côté. Donc, si vous voulez, c'est comme si finalement, cette connaissance, elle était universelle, enfin universelle, au moins sur la Terre, on va dire, et qu'elle était reprise. Un peu ce que vous disiez tout à l'heure, si il y a 10% de la population qui acquiert quelque chose qui est nouveau par rapport aux espèces précédentes, eh bien, ça va être diffusé à l'ensemble. Mais peut-être cette diffusion à l'ensemble, dont je ne comprends pas les lois fondamentales, hein, j'observe juste, mais je me dis il y a quelque chose à apercevoir là derrière, elle permet de comprendre que peut-être quelque chose qui a été accompli par une forme de vie humaine, cette forme de vie s'arrête pour d'autres raisons et puis redémarre sous une autre forme pour continuer l'aventure.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce concept tibétain, comme quoi tous les êtres vivants sur cette planète ont été à un moment ou un autre la mère de l'autre.
Ah non, je ne connais pas.
Eh bien, en fait, c'est particulièrement puissant. C'est-à-dire que, monsieur Rennes, vous avez été ma maman. Hein. Alors, peut-être que c'était il y a 700 millions d'années.
Bah, écoutez.
Vous, et vice-versa. Ce qui veut dire qu'il y aurait comme un espèce de substrat, un humus de vie qui s'est tellement interpénétré, qui s'est globalement auto-enrichi. Il y a eu des croisements, des enrichissements mutuels. Et donc, on a tous, à un moment ou un autre, participé de ce foisonnement de la vie, quoi.
Oui, dit comme ça, je le comprends mieux, parce que le reste, j'avais un peu de mal.
C'est les petits détails, sont des fois assez
obscurs. Oui, voilà, mais je pense que c'est une façon de dire les choses. Et puis, je crois que ce qui fausse beaucoup notre vue, c'est que nous avons beaucoup le culte de l'ego, de moi, et moi, c'est moi, et l'autre, c'est pas moi, et que si c'est lui qui fait, bah, c'est que moi, je suis perdu. Enfin, c'est quelque chose qui est très, très refermé sur lui-même. Alors que là, on sent bien que c'est... qu'en effet, il y a eu une espèce de partage d'un ensemble de progrès et que nous avons tous droit et que nous puisons là-dedans et en même temps, nous sommes reliés les uns aux autres. Mais ça, bon, c'est déjà plus tout à fait dans l'observation de la phylogénèse, mais c'est peut-être justement cette contemplation qui permet, à partir de là, de se poser un certain nombre de questions, celles que nous nous posons maintenant.
Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas de la phylogénèse, mais c'est de la pure spéculation. Personne n'a été, par exemple, vérifié, enfin, pas que je sache, que la transmigration des âmes est effective. Savoir que mon expérience ou mon essence parvient à renaître après ma mort sous une forme ou une autre.
Ah ça, oui, ça personne.
Non, mais d'un autre côté, ça participe à ce genre de questionnement. Comment se transmet l'expérience? Comment se transmet ce patrimoine dont vous parlez? Je meurs, ok. Il y a une impasse au niveau de l'évolution de la vie.
Oui.
Et puis comment ça se transmet quand même? C'est quand même assez mystérieux.
Oui, alors je pense que le mystère, il est un petit peu dans ce qu'on a abordé tout à l'heure, c'est qu'avant le visible, il y a l'invisible. Et que l'invisible, nous sommes extrêmement maladroits avec, nous en savons très très peu, ne serait-ce que même sur le psychisme. La partie invisible, c'est mon psychisme, c'est le vôtre, voilà. Et donc, comme nous ne savons pas très très bien comment ça fonctionne, nous sommes un peu démunis et nous nous raccrochons toujours au visible. Mais plus on va devenir un peu plus pertinent pour comprendre comment marche l'invisible en nous d'abord, et ensuite dans des dimensions plus vastes, plus tout ça nous paraîtra logique finalement.
Et puis nous arrêterons de spéculer en nous grattant les sourcils,
oui,
etc.
Parce que la spéculation, après, c'est agiter des idées. Je ne suis pas sûr que ça fasse beaucoup progresser les choses. Enfin, tout au moins, ça permet de les mettre en ordre. Mais après, si c'est que de la spéculation et qu'on perd le contact avec le terrain, on ne peut pas voir apparaître petit à petit la vérité. Mais la vérité, elle est loin, 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 loin. Il ne faut pas de prétention. Elle vient petit à petit nous imprégner comme une espèce de parfum, quoi.
Oui, mais j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que la contemplation, avec toute cette part de mystère, sans réponse, mais globale, n'est pas antagoniste d'une démarche scientifique.
Mais pas du tout. Sauf que, si vous voulez, le problème, c'est contemplation. Dès qu'on dit ça, les scientifiques, ils pensent que c'est que du flou, c'est immatériel. C'est le malaise qu'on a avec le monde intérieur, toujours. Mais la contemplation, si on en parle à des gens qui savent ce que c'est, on sait de quoi on parle avec ces gens-là. Mais comme une grande partie du monde a des idées tout à fait surfaites sur la contemplation, alors du coup, on ne se comprend pas.
Je suis un spéculatif, je vous prie de m'excuser, c'est de trouver un sens à cette évolution. Pourquoi la vie a-t-elle éprouvé le besoin de passer de la paramécie à nous, par exemple? Pourquoi être de trop dans votre cheminement?
Pour moi, je ne me pose pas cette question comme ça, bien qu'elle soit extrêmement intéressante, mais comme je sais que je n'ai pas la réponse, que je ne vais pas la trouver comme ça, et que ça va être mon cerveau qui va chercher, et qu'il va peut-être dire un peu n'importe quoi, donc je ne me la pose pas comme ça. Moi, je me pose plutôt la question de regardons ce qui existe pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Et ce qui existe, c'est le monde tel qu'il est, avec toute son histoire, et tel qu'il est construit, avec ses lois. Donc moi, j'essaie d'observer ça surtout, plutôt que de me poser des questions qui me paraissent plus éloignées de la réalité matérielle. C'est une bonne question, mais la phylogénèse ne peut pas répondre à cette question. Après, c'est chacun va, à partir de là, se faire une idée des choses et construire sa vie en fonction de ce qui lui semblera le plus juste. Et, parce que finalement, nous sommes des êtres libres, libres et responsables, et que à partir de ce que nous observons, faire des choix va avoir des conséquences très importantes sur notre propre vie et celle de ceux qui sont autour de nous.
Pourtant, vous posez des questions assez hallucinantes quand même. Regardez, comment sommes-nous passés de la poussière d'étoiles aux êtres humains? Si ce n'est pas de la haute spéculation, ça, non?
Ah ben non, ça c'est de la phylogénèse. C'est-à-dire qu'en effet, nous étions poussière d'étoiles, c'est-à-dire minéral. Ce minéral, il a subi un certain nombre d'impacts différents, comme les rayons cosmiques, etc., parce qu'il n'y avait pas d'atmosphère, qui a fait des effets que l'on peut approcher par l'expérience de Haldane, donc un Américain qui a essayé de recréer les premières briques de la vie, les premières chaînes d'acides aminés, à partir de conditions minérales et météorologiques au sens très large, et a pu montrer qu'en effet, on pouvait fabriquer les briques de la vie, que ces briques s'étaient organisées ensemble et avaient construit des premières structures précellules, ce qu'on appelle des précellules. Ces précellules avaient évolué pour construire finalement les premières cellules végétales, etc. Ça, c'est de l'observation. Alors, pas direct, bien évidemment, 4,5 milliards d'années, je ne vous raconte pas. Mais quand même, il y a un certain nombre de scientifiques qui ont établi des choses suffisamment claires pour qu'on puisse avoir une idée des grands mouvements de ce qui a eu lieu, même si ce n'est pas encore très précis, même si en effet, il y a des oppositions sur des détails. Mais globalement, on sait ce qui s'est passé. Avec les cyanobactéries en particulier, on sait comment la vie est apparue.
Vous ne voudriez pas répondre à la question de tout à l'heure? Est-ce que justement c'est la panspermie a eu son rôle à jouer, ou est-ce que c'est venu ici même sur la Terre, on a eu besoin de personnes pour faire naître la vie?
Alors la panspermie, donc, c'est l'idée que la vie a été ensemencée par une autre planète ou par une astéroïde ou par... Mais ça ne change rien du tout, puisque de toute façon, si c'est apparu sur une autre planète, c'est se poser la question comment c'est apparu sur l'autre planète. Mais ça ne change rien.
Ah ben, ça pourrait par exemple vouloir dire qu'il y a eu de la vie effectivement sur d'autres planètes. C'est intéressant, parce que pour l'instant, on se pose des questions sur... Vous pensez qu'il y a des extraterrestres, vous, monsieur? je vous prie de m'excuser de partir un peu dans tous les sens.
Louis, la phylogénèse n'étudie pas les extraterrestres, mais si je devais faire une émission, je reviendrais bien volontiers vous en parler.
Écoutez, s'il y a eu des briques d'ADN qui sont arrivées par des astéroïdes, il est vraisemblable que la vie a été présente ailleurs.
Les étoiles sont des usines. Les étoiles sont des usines à molécules chimiques de plus en plus complexes. Donc on peut bien imaginer que dans ces usines, il s'est passé un certain nombre de choses, que ces usines ont rejeté les produits qu'ils avaient fabriqués et que ces produits sont interconnectés, ont eu des relations entre eux et que ça a produit un certain nombre de choses. Tout ça est tout à fait plausible. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la réalité? Je suis incapable de le dire. Mais pourquoi pas? Vraisemblablement, il s'est passé énormément de choses et puis qui ont été très complexes au niveau de ces étoiles. Ce qui s'est passé après dans les nébuleuses aussi, donc c'est pas du tout illogique de penser qu'il y a eu de la vie ailleurs. C'est pas du tout illogique.
Très bien, je vous propose, monsieur Rennes, d'arrêter de spéculer dans ces profondeurs abyssales, voire célestes, pour que vous puissiez un petit peu me dire qu'est-ce qui va se passer lors de ces week-ends, concrètement.
Alors, donc, comme il se trouve que nous allons à une conférence à Lyon sur la crise de l'univers, de la Terre et des hommes, eh ben, le sujet me paraissait très important de l'aborder avant, c'est-à-dire que le samedi matin, nous allons aborder les différentes crises que la Terre a traversées, puisque ces crises ont été quelquefois... tellement dures qu'elles ont mis en péril la vie même, puisqu'il y a un film que nous regardons avec l'équipe avec laquelle je travaille qui s'appelle Le jour où la vie a failli disparaître, et où il y a toute une enquête qui est faite pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu des conditions qui ont fait que la vie a quand même ça failli disparaître totalement. L'histoire de la boule de neige ou la boule de glace aussi, au moment où la vie s'est réfugiée dans des profondeurs abyssales, comme on en parlait tout à l'heure, pour se préserver pendant toutes ces millions d'années, et puis la Terre s'est réchauffée. Alors il faut comprendre pourquoi elle s'est réchauffée.
Mais quelle est la première crise dont vous parliez juste avant la boule de neige, là?
La première crise, c'est, semble-t-il, il y a 2,1 milliards d'années, 2,1, 2,4. Alors c'est peut-être dû à la sortie de... Mais là, il faudrait que j'explique toute la phylogénèse. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'atmosphère. Tant que les cellules végétales étaient dans l'eau, il n'y avait pas d'atmosphère. Et en fait, les cellules végétales ont fabriqué de l'oxygène. Cet oxygène a saturé l'eau et puis a dégazé, comme une bouteille de Coca-Cola que vous ouvrez, il y a du gaz qui sort. Ce gaz a créé, qui était l'oxygène, a créé la première atmosphère. Mais cette atmosphère a privé, parce qu'il s'est passé plein d'autres produits en même temps qui ont créé cette atmosphère, a privé la Terre d'une partie des rayons solaires et donc a refroidi la Terre. C'est en même temps une bonne chose, mais peut-être que le phénomène s'est amplifié et a produit une glaciation de toute la Terre. Mais là, il faudrait rentrer plus dans le détail pour expliquer ça. Mais la première glaciation, Terre boule de neige, il semblerait qu'elle soit de 2,1 à 2,4 milliards d'années. Ensuite, il y en a une autre il y a 650 millions d'années, celle-là qui a l'air aussi d'avoir eu quelques effets intéressants. Coton. On est mieux avoir son pull avec soi ce jour-là.
Les dernières ont été pas mal non plus, puisque moi j'ai entendu dire, hein, je ne veux pas spéculer encore une fois, mais que lors du quaternaire, il y a une période de glaciation dans laquelle l'humanité a failli disparaître.
Oui,
aussi,
c'est celle-là, oui, tout à fait, tout complètement. Oui.
Il y a 650 millions d'années.
Après,
moi, je parle du quaternaire, c'est-à-dire à 35 000 années, il y avait encore les mammouths, quoi. Hein.
Alors c'est 65 millions dont vous parlez, vous.
Ah non, moi je vous parle de 50 000 ans, peut-être à 70 000 ans.
Il faut qu'on se retrouve dans un des week-ends avec vous, oui. Pour étudier la phylogénèse ensemble et pour être plus précis, en effet. Mais bon, celle qui me vient, une très forte crise qu'il y a eu, c'est celle qui a 65 millions d'années, où il y a eu, semble-t-il, une comète qui a détruit tous les dinosaures et qui a permis d'ailleurs l'émergence des animaux à sang chaud. Donc je ne sais pas si c'est de celle-là dont vous parlez ou bien avant.
Ah non, moi, c'est bien après. Moi, je vous parle de la dernière période de glaciation. Dans lequel il y avait les humains étaient déjà là.
Ah
quoi.
Oui. Non, mais elle était moins forte.
Elle était moins forte. Oui. Et d'ailleurs, nous survécûmes.
Oui, d'accord.
Nous sommes encore là. Oui. Mais ceci dit, j'ai entendu dire moi qu'il y avait plus beaucoup d'êtres humains. D'ailleurs, on retrouve des gènes assez communs à beaucoup de gens parce qu'il y avait le panel d'êtres humains était assez limité en fait.
Oui, en fait, non, mais c'est vrai que les glaciations et la Terre boule de neige, c'est pas la même chose. C'est pour ça que moi j'étais resté sur. Mais d'ailleurs, et là aussi pour éviter la confusion pour les auditeurs, 65 millions d'années, il n'y a pas eu de boule de neige. C'était juste une météorite. Bon, ça a détruit les dinosaures, mais il n'y a pas eu du tout l'effet boule de neige dont on parlait.
Il y avait un effet de serre massif et sans doute pas beaucoup d'oxygène aussi.
Oui, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Diminution de l'oxygène, en effet, par des incendies, un certain nombre de choses qui ont créé des grandes difficultés pour ces animaux monstrueux et ils ont laissé leur peau.
Concrètement, parce que vous cherchez des clients peut-être pour ces week-ends, qu'est-ce que vous allez leur proposer à ces braves gens qui vont s'intéresser à la phylogénèse?
En fait, moi, je pense que tout ce que nous développons, quand on le développe, c'est qu'on est passionné, c'est qu'on trouve ça intéressant et qu'on voudrait partager cette connaissance. Donc, c'est pas qu'on cherche les clients, c'est qu'on se dit, s'il y a des gens qui sont intéressés par cette étude, ben écoutez, bienvenue. C'est plutôt, on essaie de faire un partage avec des êtres passionnés.
Et alors, il y a cette conférence à Lyon, mais...
Alors, après, si on veut s'inscrire, il suffit d'appeler le centre de l'Aube en disant qu'on veut s'inscrire à ces week-ends, donc, qui sont le 14 et 15 mars pour le prochain, avec donc un déplacement sur Lyon tous ensemble pour aller écouter la conférence « Crise de l'univers et de la Terre et des hommes ».
Avec qui, déjà?
Avec Trinh Chuan Chuan, qui est un astrophysicien américain, qui parle très bien français, il est d'origine vietnamienne. Jean-Marie Pelt, on le présente plus. Et puis Bernard Monteau, qui lui a créé la psychanalyse corporelle et qui s'intéresse beaucoup à la vie intérieure humaine. Donc comme ça, on a un panel assez large pour aborder la crise. Voilà, donc après, écoutez, il suffit, ceux qui sont intéressés, soit de consulter le site de l'Aube, www.aube-association.com, ou bien pour les renseignements, on peut appeler le 06 81 98 57 43, 06 81 98 57 43.
Et je vois qu'il y a un deuxième week-end qui est prévu le 2 et 3 mai 2015.
Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est cette année, c'est nos deux derniers week-ends, 14 et 15 mars et 2 et 3 mai. Et puis l'année prochaine, il y aura de nouveau un programme avec... je ne sais pas, 2 ou 3 week-ends, nous allons mettre ça au point prochainement.
Et le 2-3 mai, vous ne connaissez pas les sommités auxquelles vous allez faire appel?
Non, j'ai dit peut-être nous allons voir un spécialiste en embryologie, mais ce n'est pas encore sûr.
Toujours la même chose, le microcosmos est en connexion avec le macrocosmos.
Voilà, exactement. Comme je disais, en fait, quand on s'intéresse à l'embryologie, c'est extrêmement passionnant de s'apercevoir de l'analogie avec la grande histoire de la vie sur Terre, que ça commence pareil, que par un Big Bang... même de l'astrophysique d'ailleurs, puisque ça commence comme un Big Bang. La rencontre de l'ovocyte et du spermatozoïde crée un véritable Big Bang, une explosion cellulaire en nombre et en épaisseur qui va produire un embryon qui va ensuite se développer à l'image du végétal en rentrant dans la muqueuse utérine, en sortant avec son cordon comme une tige, avec une fleur au bout qui s'appelle l'embryon. Et puis tout ça va s'organiser comme l'animal avec des migrations cellulaires, des tissus qui vont se former, le cœur, etc. Donc en fait, on retrouve en tout petit tout ce qui s'est passé dans le grand. Voilà. Donc c'est extrêmement intéressant. Et là aussi, ce n'est pas du tout une invention de mon esprit. Hein. C'est depuis toujours ceux qui se sont passionnés pour l'embryologie. Donc les embryologistes ont fait cette comparaison entre les deux avec des termes qu'on ne comprend pas. Et qui, en médecine, on dit l'ontogénèse, c'est-à-dire l'histoire de l'évolution de l'individu, du petit bébé dans le ventre de sa mère, reproduit la phylogénèse qui est l'histoire de la vie sur Terre. Donc ça, c'est une phrase qu'on retrouve dans tous les livres d'embryologie que je n'ai pas inventé et qui est même le leitmotiv.
La vigueur y comprise. Comme vous l'avez dit, ça a l'air d'être un processus assez vigoureux.
Ah ben c'est sûr, c'est sûr. Ah oui, oui, c'est très. C'est là où on voit la force de la vie sur Terre. Mais là, justement, on a abordé surtout l'aspect physique, mais si on s'intéresse à la construction psychique de l'humain, on s'aperçoit à quel point comprendre comment le végétal s'est développé et quelles étaient les forces qui l'animaient, on comprend où on retrouve ces forces dans l'homme et comment elles se manifestent. Et ça, c'est extrêmement intéressant. La force de vie qui est typique du végétal. Le végétal a été la première forme de vie animée au sens elle n'était plus pas inerte. Le monde minéral est un monde relativement inerte, même s'il a créé la vie. Tandis que là, c'est le monde de la vie animée, et c'est pas la même chose. Et cette vie animée, elle défend sa propre vie sur Terre. Le minéral, vous savez que le sable roule et puis devienne du sable plus fin, il s'en fout complètement.
Vous avez la spiruline quand même.
Oui, c'est vrai. Mais que la plante, elle essaie de sauver sa peau en toutes circonstances, et l'animal aussi, et l'humain aussi.
Avec vigueur.
Avec vigueur. Ah oui, c'est cette force de vie, quoi. Cette force de vie.
Monsieur Rennes, comme on l'a dit un petit peu précédemment, cette connaissance de la phylogénèse peut être très intéressante pour le développement personnel de tout un chacun. Je suppose qu'il y aurait des temps de dialogue avec vous, avec les participants à ce stage, pour les enrichissements de tout un chacun.
Bien sûr, parce que si on reprend ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que toute forme de vie participe à cette grande histoire, eh bien les humains que nous sommes et ceux qui vont venir au stage avec moi se posent forcément la question pour eux-mêmes. Et que donc ces questions qu'on se pose pour soi-même, moi il se trouve que ça fait maintenant 10, 15 ans ou 20 ans que je baigne là-dedans, donc je ne suis pas plus intelligent qu'eux, mais j'ai fait quelques pas déjà là-dedans, et que donc je peux peut-être les aider à essayer de décrypter un certain nombre de questions et de se poser les bonnes questions pour essayer de trouver leur propre réponse. Donc il y a en effet dans ces week-ends des temps de questions-réponses avec moi, soit concernant la phylogénèse elle-même, mais ce n'est pas le plus intéressant, soit plutôt ce qui les concerne eux dans cette histoire, puisque c'est notre histoire dont nous parlons. Comme si vous voulez, il y a une histoire plus récente, c'est notre histoire avec notre papa, notre maman, nos oncles, nos tantes, qui posent des problèmes pour notre vie actuelle. Il y a un accompagnement psychique qui fait qu'on peut essayer de trouver un apaisement par rapport à ce passé. Là, c'est un apaisement par rapport à un passé encore plus grand qui parle de notre propre évolution.
Et que nous portons encore sous nos épaules.
Bien sûr que nous le portons dans nos cellules, dans nos gènes, dans notre cœur, dans notre corps, dans notre sang, partout. Dans toutes nos cellules sont baignées de ça.
Dans notre cerveau reptilien.
Entre autres, on n'a pas que celui-là, mais oui.
Tout à l'heure, je vous prie de m'en excuser, je spécula en posant cette mauvaise question qui est le pourquoi. Pourquoi la vie s'est-elle développée? Et justement, je voudrais vous poser une autre question quand même, parce que moi j'ai été en Inde et j'ai entre autres creusé une des premières formes de spiritualité dans laquelle la seule question réelle et effective, c'est qui? Alors, qui suis-je? Ça, ce n'est pas de la spéculation, c'est de l'introspection pure. Je vous repose la même question ou presque, mais qui est à l'origine de toute cette ébullition de la vie alors?
Je pense que la réponse, elle va être en effet, peut-être on pourrait l'aborder en nous étudiant nous-mêmes. C'est ce que vous venez de dire, mais je crois vraiment ça. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, ce n'est pas du tout de moi. Hein. Il y a une phrase archi-classique, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». En même temps, ça peut paraître une phrase philosophique, une phrase comme ça, mais si on la regarde un peu plus près, peut-être bien qu'au fond de nous, il y a déjà toute l'histoire de la vie sur Terre, il y a peut-être même encore plus que ça, et contempler comment nous sommes construits et où nous allons, parce que c'est bien gentil d'étudier la phylogénèse, mais on peut étudier la phylogénèse, ce qui est l'histoire du passé, on peut comprendre du coup en quoi nous sommes concernés, et puis du coup on peut peut-être apercevoir la suite. Et ça, c'est aussi extrêmement intéressant. Ça ne s'appelle plus la phylogénèse, mais comprendre les lois qui ont gouverné l'évolution jusque-là, comprendre où est-ce qu'on en est, quels problèmes il y a et quelles sont les solutions qui pourraient apparaître en logique avec ce qui s'est passé avant, ça nous permet d'apercevoir peut-être l'avenir. Et en particulier, aujourd'hui, c'est nécessaire parce que quand on voit tout ce qui se passe sur cette Terre et à quel point nous la mettons en danger, donc nous mettons en danger. Si on scie la branche sur laquelle on s'est assis, on risque de se faire du mal. Si on tue la terre qui nous a donné naissance, c'est comme si on tuait notre mère, donc on ne fait pas quelque chose de très profitable pour notre propre avenir. Et donc cet aspect des choses, d'aller en effet au fond de soi, permet peut-être de commencer à répondre à cette question. Mais je voudrais aussi dire une chose, c'est pas une mauvaise question de se dire pourquoi, etc. C'est des bonnes questions. Sauf que je crois qu'on ne peut pas avoir la réponse, parce que nous sommes encore... pas assez habile dans le monde intérieur, on ne peut pas avoir la réponse comme ça. Mais cela posé, ça permet déjà de comprendre un certain nombre de choses, comme un enfant qui comprend un certain nombre de choses, et se situer. C'est-à-dire qu'on pourrait, on peut se situer. On peut dire, ben voilà, moi, ma vie, je veux la conduire comme ça. Avec ce que j'ai compris, je veux la conduire comme ça. Je ne sais peut-être pas tout, je ne sais pas répondre si Dieu existe ou Dieu n'existe pas, je ne sais pas répondre au pourquoi, je ne sais pas tout répondre, mais tel que je vois les choses, tel que je les aperçois, avec l'être que je suis, moi, je veux conduire ma vie comme ça. Et ça, c'est le choix humain fondamental. Et ce qui pose problème, c'est qu'actuellement, peu le font. C'est-à-dire qu'on a le droit de décider comment on conduit sa vie. Parce qu'on se dit, comme ça, je suis mieux. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer après, quand je serai mort. Peut-être je le sais, peut-être je ne sais pas. J'ai des idées, une foi, ça c'est personnel. Mais on peut se dire, voilà, si je conduis ma vie comme ça, je suis mieux avec moi-même et mieux avec les autres. Une éthique de vie, quoi.
Pour terminer ce débat très riche, Monsieur Rennes, je voudrais vous remercier parce que, effectivement, je suis très d'accord avec vous. C'est dommage que pas assez de personnes se posent les bonnes questions sur notre présence sur Terre, sur à quoi ça sert de vivre, ce genre de choses, ou sur une finalité de notre vie. Mais en tout cas, dans le bouddhisme, je ne sais pas si vous connaissez cette image, la valeur de la vie humaine, c'est comme si, je ne sais pas comment ils ont été chopés cette image, mais enfin bon, en tout cas, c'est comme si il y avait une tortue qui sortait en plein milieu du Pacifique et sa tête émergeait dans une bouée de sauvetage. Ah. Pour dire qu'en fait, on a une chance inouïe d'être un homme. C'est une chance inouïe et qu'on peut ne pas s'en apercevoir et passer sa vie à consumérer. Je ne sais pas si ça se dit. et à passer à côté de notre vraie vocation. Et je trouve que ce qui est très intéressant de discuter avec vous, c'est effectivement de se rappeler qu'on a, c'est pas une mission, mais en tout cas un vrai boulot, quoi.
On a un vrai boulot. Puis c'est passionnant, ça rend la vie passionnante de se poser des questions comme ça. Autrement, le reste, c'est un peu morose, quoi. Et se poser la question de, ok, l'évolution de la vie, on en est là. Ok, il y a peut-être des cris, il y a des choses. On en est là, et maintenant, on fait quoi? Et donc, c'est quoi la suite? Donc, c'est ça qui est intéressant.
Et puis, cette fameuse petite phrase latine, in circuitu impi ambulante.
Oula, là, mon latin est loin. Ça va faire une petite traduction.
Je la cite au moins tous les 13 interviews et demi.
Ah oui.
Et donc, ça veut dire en circuit fermé tournent les impies.
Ah oui, ça c'est sûr.
Ceux qui ne croient pas, ceux qui restent profanes et qui restent coincés dans la matière sans transcension, bah, il leur manque une dimension. Ils restent en 2D, hein, ils n'arrivent pas à décoller. Quoi. Ils s'occupent de payer leurs impôts, de gagner de l'argent.
Il faut le faire. Hein, non,
il faut le faire, mais ce n'est pas suffisant.
Voilà, c'est la base.
Donc de ce point de vue-là, je vous remercie d'être passé, de nous annoncer ce week-end. Alors pour tous les gens que ce genre de considération sur l'origine de la vie et sur leur place dans l'univers intéresse, eh bien donc rendez-vous au Centre de l'Aube le 14 et 15 mars 2015 et le 2 et 3 mai avec un déplacement à Lyon le 14 et 15 mars avec Monsieur Pelt,
Monsieur Trinh Phan Thuan et Monsieur Bernard Monteau.
Monsieur Rennes, merci et à bientôt.
Merci Louis, au revoir.